À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Vous êtes sur Fréquence Mistral, bienvenue à vous si vous nous rejoignez et bienvenue à nos trois invités aujourd'hui dans notre studio. Lucile Thiébaud, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes auprès de la préfète. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline, bienvenue.
Bonjour.
Et Audrey Declincourt, qui a posé pour l'expo photo Réversible, visible les lundi 24 et mardi 25 novembre 2025 à la médiathèque de Château-Arnoux-Saint-Auban. Bonjour Audrey Declincourt.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, le 25 novembre a été choisi par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en 1999 comme journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, avant de se lancer dans l'actualité régionale, départementale de cet événement. Peut-être pourrait-on rappeler quelques éléments de contexte autour de cette date, autour du 25 novembre. Alors, je me tourne vers vous, Jacqueline Engrave.
Oui.
Je crois que vous avez des éléments à nous apporter à ce sujet.
Oui, alors pourquoi cette date du 25 novembre, journée internationale de lutte contre toutes les violences masculines faites aux femmes, c'est comme ça que nous l'interprétons. C'est en fait le jour de l'assassinat à la machette, le 25 novembre 1960, sur ordre du chef de l'État de la République dominicaine. La République dominicaine, c'est un État de la partie orientale de l'île d'Hispaniola, l'autre partie étant Haïti, c'est une île de la mer des Caraïbes. Donc l'assassinat sur l'ordre du dictateur Rafael Trujillo, soutenu par les États-Unis d'Amérique, des trois sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa, opposées à Trujillo, dont l'une, Minerva, avait refusé ses avances à deux reprises, ce qui l'avait beaucoup vexé dans son orgueil de mâle dominant. Eh bien, en fait, comme elles étaient opposées à la politique de Trujillo et qu'elles défendaient les droits des femmes, ainsi que leurs maris, je passe les détails, les maris étant emprisonnés à la prison de Puerto Plata, elles allaient les visiter régulièrement. Et le 25 novembre 1960, ça n'est pas si vieux, hein, j'étais adolescente à cette époque, eh bien, Patria, Minerva et Maria Teresa quittèrent Puerto Plata à bord d'une jeep avec leur chauffeur. Elles furent arrêtées par un véhicule à coups de rafales de balles, transportées de force loin de la route, dans un endroit désert. Elles furent toutes les trois assassinées à la machette, leur chauffeur aussi. Leurs corps furent replacés dans la jeep et jetés du haut d'un précipice qui bordait la route. C'était comme ça que Trujillo se débarrassait de ses opposants politiques en faisant croire à des accidents de la route. Cet assassinat politique provoqua effroi et indignation dans le pays et il eut un retentissement international. C'est pourquoi les militantes en faveur des droits des femmes ont choisi en 1981 la date du 25 novembre comme journée dédiée à la lutte contre la violence masculine en mémoire des trois sœurs Mirabal, héroïnes martyres assassinées sur l'ordre d'un homme, le chef d'État, ordre exécuté par des hommes à sa solde. Et comme vous l'avez dit déjà, le 17 décembre 1999, 18 ans après, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 25 novembre journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et invité les gouvernements, les organisations internationales à organiser ce jour-là des activités conçues pour sensibiliser l'opinion publique. L'objectif était et reste bien d'éradiquer ce fléau dans le monde, ce qui représente un immense défi, l'impunité des auteurs restant généralement de mise partout. Voilà le rappel du 25 novembre.
Oui, et selon les appellations, on peut entendre parler élimination de la violence à l'égard des femmes, mais aussi des violences, parce que les formes de violence il y en a plusieurs. Lucille Thiébaud, est-ce que vous voulez nous rappeler de quoi on parle quand on parle de violences faites aux femmes au pluriel ?
Exactement, c'est une réalité très concrète et très large. C'est pour ça que 65 ans après, on est toujours en train de travailler avec une politique publique sur ce sujet. Car ces violences, elles sont systémiques. C'est le résultat d'une domination historique des hommes sur les femmes. Alors, de quoi parle-t-on ? Ces violences, c'est une réalité multiple. Des violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, harcèlement, menaces, au sein du couple ou de l'ex-partenaire, mais aussi dans la sphère de la famille, dans le cercle intime, mais également le travail, l'espace public, numérique. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que c'est important parce qu'on pense souvent les violences physiques. Aux violences physiques, il y a les violences psychologiques. Alors, violences psychologiques, on pense aux insultes, mais pas que. Il y a la question aussi de la dévalorisation, des menaces, du chantage affectif et jusqu'à l'isolement social. Ces violences, elles sont souvent invisibles, les violences psychologiques, mais très destructives, tristes, pardon. Elles installent l'emprise et empêchent la victime de se sentir légitime. Notamment dans le couple, ça commence comme ça. Ensuite, les violences physiques, les coups, les gifles, brûlures, saisir le bras pour empêcher de partir jusqu'à des choses bien plus graves. Les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, l'attouchement imposé, agression sexuelle, jusqu'au viol et notamment donc faire pression pour accepter un acte sexuel. Le viol existe aussi dans les couples, il faut le dire. Et être en couple ne signifie jamais consentir par avance. Donc on a parlé physique, psychologique, sexuel. Une chose qu'on dit peu, c'est les violences économiques et administratives. Le fait de confisquer le revenu, interdire de travailler, contrôle des comptes bancaires, le fait de retirer la carte bancaire. Tout ça a pour objectif de rendre dépendante la victime pour l'empêcher de partir. On parle aussi des violences sexistes et de discrimination au travail, avec la question du harcèlement, des blagues sexuelles, des remarques sexistes. Et ça, je le développerai par la suite quand on parle de tout ce qui tourne autour du sexisme. Les violences dans l'espace public et en ligne en font aussi partie. Le harcèlement de rue, agression sexuelle, le cyberharcèlement, les revenge porn, suivre une femme dans la rue, l'insulter, publier des photos intimes sans son consentement. Tout ça fait partie des violences dans l'espace public. Et puis, on peut aussi nommer le mariage précoce et forcé, les mutilations génitales et féminines, et tout ce qui tourne autour du trafic d'êtres humains, l'exploitation sexuelle et la prostitution. Donc, le concept de violence est très large, il dépasse l'acte physique isolé. Il s'agit d'un continuum de comportements, et on reviendra dessus. Et donc, quelques chiffres. En 2024, 277 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viols, agressions sexuelles, soit une femme toutes les deux minutes, et 7% déclarent avoir déposé plainte. Il faut noter que dans les femmes qui ont été enregistrées par les forces de police et de gendarmerie, 91% dans ces plaintes, 91% sont des femmes et 54% des victimes de violences sexuelles sont des mineurs, dont 83% de filles, ce qui est assez impressionnant. À noter également que les mises en cause, dans 95% des cas, sont des hommes et 99% des condamnations sont également des hommes. Donc là, on parlait dans la globalité, hein, dans les chiffres que j'ai énoncés sur les violences sexistes et sexuelles. Sur la question des violences conjugales, en 2024, on a pu comptabiliser 271 848 victimes et 84% étaient des femmes. Donc voilà, il est important d'avoir ce continuum de violence en tête avec différents exemples et de pouvoir illustrer la question aussi des violences conjugales. Et je me tourne...
Oui, on se tourne vers Audrey, évidemment, puisque là, les chiffres particulièrement éloquents soulignent le caractère systémique de ces violences, mais notre idée, c'est également de les illustrer avec des témoignages concrets. Audrey était venue au micro d'Odile Frison témoigner de son parcours. Un mot peut-être, Audrey, donc sur le cas des violences intrafamiliales et sur l'acte de témoigner, de prendre la parole.
Oui. Alors, pour tout ce qui est intrafamilial, alors nous, en tant que victimes, on est pris en compte directement. Par contre, au niveau des enfants, c'est très dur pour eux. Et pourtant, c'est les victimes qui sont là en première ligne. C'est-à-dire que nous sommes victimes physiquement, moralement, mais les enfants, dedans, ils sont également. On n'est pas obligé de toucher un enfant pour qu'il soit victime. L'enfant voit, l'enfant ressent, qu'il soit présent, ou pour, même pour les femmes enceintes, c'est très important. Ils sont victimes directement. Et ça, c'est pas toujours reconnu, que ça soit pour les dépôts de plainte, au niveau de la justice. Et ça, il faudrait vraiment que ça avance à ce sujet.
Oui, ça fait partie des éléments qui sont peut-être pas visibles de prime abord et pourtant qu'il faut souligner aussi.
Oui.
Et qu'est-ce que ça a représenté pour vous de pouvoir raconter cette histoire, de pouvoir témoigner? Est-ce que ça aide dans le processus? Est-ce que c'est un moyen de communiquer?
Moi, je l'ai fait spécialement pour les femmes qui sont encore victimes, pour celles qui sont décédées malheureusement aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie non plus. Mais il faut que les femmes qui sont victimes, qu'ils puissent en parler, qu'ils n'aient pas peur d'en parler. Et si ça peut les aider dans les démarches à prendre, à effectuer, pour savoir où qu'ils doivent se rendre pour avoir une aide concrète, c'est important qu'ils sachent. Parce que moi-même, en étant victime, ben, je ne connaissais pas, par exemple, le CIDFF, la MAV, toutes ces associations-là, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qui pouvait m'aider et les aides que je pouvais avoir.
Et est-ce que vous voulez dire un mot depuis l'année dernière? Ça remonte à peu près à un an, le témoignage à Fréquence Mistral. Est-ce que vous voulez dire un mot de ce qui s'est passé depuis, de si la situation évolue, si c'est très lent ou s'il se passe beaucoup de choses?
Alors, au niveau de la justice, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas d'évolution. Je retrouve des gendarmes qui sont un peu plus formés, un commissariat de police qui n'est pas très ouvert et je pense qu'il y a un gros manque toujours de formation par derrière et une mauvaise écoute surtout. Parce que moi je dis qu'une victime, une fois qu'elle rentre dans un commissariat, il faut qu'elle soit écoutée, qu'elle soit crue. Après il y a une enquête qui est mise en place par derrière, à voir si c'est vérité ou pas, mais il faut qu'elle soit surtout écoutée. Et si elle sent qu'il n'y a pas d'écoute du début, ben elle va retirer sa plainte ou alors elle fera rien du tout. Et c'est là justement qu'on arrive malheureusement à des féminicides ou alors à des représailles par derrière.
Oui, c'est de cette façon qu'il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent passer inaperçus. Il y a d'autres types de violences qui passent inaperçues, je pense notamment au sexisme ordinaire. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots?
Oui, tout à fait. Quand on parle de violence, comme je le disais, c'est un continuum. Et le sexisme et le sexisme ordinaire fait partie du terreau de ces violences. Alors, on parle de quoi quand on parle de sexisme? Eh ben, c'est des choses qui sont très banalisées, qu'on a tous et toutes même intégrées. Et une femme peut être aussi sexiste. Hein, et ça se veut pas méchant, parfois même bienveillant, mais ça fait partie du sexisme. Donc le au travail, le ma cocotte, ma jolie, oh, t'es pas assez féminine, dis donc, ou la charmante stagiaire, fait partie de petites remarques sexistes. Mais donc il y a les remarques, mais il y a aussi la question des comportements. Par exemple, couper systématiquement la parole à une femme en réunion, débat ou repas, est un comportement sexiste. Ou encore, donner la parole spontanément à un homme, également, ce sont des façons de faire qui sont sexistes. Reformuler l'idée d'une femme pour la rendre acceptable ou puis féliciter l'homme pour l'avoir bien dit. Voilà, tout ça, ça fait partie des comportements. Et rappelez que ces attitudes, elles alimentent l'acceptation sociale de la violence. Et donc, on a une responsabilité collective à lutter contre ce sexisme, que ce soit les institutions, les entreprises, mais aussi dans la famille, les écoles et vous, les médias. Donc, merci de parler de ces violences aujourd'hui. Et donc, lutter contre les violences, c'est aussi lutter contre la culture du viol qui, aujourd'hui encore, est bien là. Un Français sur cinq et près d'un tiers des 18-24 ans considèrent que les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées, naturellement je dis ça entre guillemets. Et donc ce n'est pas une opinion, c'est le symptôme d'un système qui confond violence et désir, domination et sexualité. Donc mettre fin à cette culture, c'est donc éduquer au respect, valoriser la liberté et responsabilité et répéter avec force. La honte n'est jamais du côté des victimes, mais du côté de ceux qui violent, de ceux qui agressent et de ceux qui détournent le regard. Donc il faut arrêter de considérer que la violence c'est une question de faits divers et non, c'est une logique, comme je le disais en introduction, systémique. C'est pas un acte isolé, mais des comportements qui s'inscrivent dans ce cadre, cette culture du viol. Donc à la base, ces comportements ne sont pas anodins. Ils réduisent la légitimité des femmes et ça crée un terrain culturelle qui normalise ensuite les violences que vous avez pu vivre, madame, en termes de contrôle, d'emprise, de violence. Donc il faut, à la base, travailler sur cette question de sexisme ordinaire. Il faut en parler. Et la société, on peut l'observer, hein, le Haut Conseil à l'égalité sort un rapport tous les ans au mois de janvier. Les chiffres sont assez impressionnants, hein, parce que voilà, on a une société de plus en plus... on n'a jamais autant parlé de la question de l'égalité femmes-hommes. Et pourtant, dans les médias, au niveau politique, il y a de plus en plus de propos sexistes qui sont notés. Et donc, alors quand on interroge la population, bah, ça donne ces chiffres. Hein. Par exemple, les 25 à 34 ans, les jeunes hommes de 25 à 34 ans, un quart pense qu'il faut être parfois violent pour être respecté. Ça, c'était les chiffres de 2023 du Haut Conseil à l'égalité.
Des jeunes hommes.
Voilà, un quart des jeunes hommes. C'est des chiffres qui sont quand même très interpellants. Et donc, il faut que collectivement, on agisse, et comme je disais, avec une responsabilité collective. Et d'où l'importance de parler, hein, de ce sexisme.
Oui. Jacqueline Engrave, vous vouliez réagir peut-être à ce qui vient d'être...
Oui, eh bien, je pense que l'importance d'en parler, bien entendu, le plus possible autour de soi, dans sa sphère privée comme dans la sphère publique. Et je crois que la solution qui est préconisée depuis 30, 40 ans, depuis de très nombreuses années, c'est quand même la solution de l'éducation des garçons. Voilà. Donc, l'éducation des garçons, des hommes, elle est basée sur les valeurs viriles. Et ces valeurs viriles, qui sont des valeurs de force, de soumission, de domination sur les femmes, c'est ça, les valeurs viriles, de la guerre, de la bagarre. Qui décide des guerres, ce sont les hommes. Qui font les guerres, ce sont les hommes, pas les femmes. Qui viole, qui torture, qui humilie, qui pille, ce sont les hommes et pas les femmes. Donc, il y a vraiment une question d'éducation à la base. On pourrait penser que c'est inhérent à la nature de l'homme d'être violent et donc qu'il n'y a rien à faire. Et en fait, c'est faux. On pense que c'est on ne naît pas homme, on le devient, tout comme on ne naît pas femme, on le devient. Donc, c'est une question d'éducation. Voilà, je pense à ça principalement.
Et la question de l'égalité femmes-hommes a pour objectif d'améliorer cette égalité, mais qui sera aussi bénéfice pour les hommes. Eux aussi sont victimes de ce système, des injonctions à la virilité. Et donc, on a tout intérêt à évoluer, à éduquer et à faire évoluer la société dans ce sens. Voilà, il ne faut pas opposer... Enfin, il n'y a pas d'opposition femme et homme sur ce sujet. Hein. Je pense que c'est important de le répéter et de dire que ça nous impacte toutes et tous autant.
Oui, et dans cette démarche de prévention, hein, parce que l'éducation, c'est justement aussi de la prévention pour éviter d'en arriver là, je me permets de citer quelques actions qui sont proposées, notamment par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF, sur le plan régional pour cette journée du 25 novembre. Une rencontre « Déconstruisons les idées reçues sur la prostitution » le 5 décembre de 14h à 17h à Manosque, à la maison Simone Veil, qui c'est sur Entrée Libre. Également des actions de sensibilisation du CIDFF du Pays d'Arles, qui organise une série d'interventions, de formations spécialisées, ainsi qu'une semaine de sensibilisation avec le VAN Nina et Simone. On peut retrouver donc la liste complète en ligne sur le site du CIDFF. Et évidemment, on va également citer l'exposition Photo qui a lieu à Château Arnoux, réversible. Ça a lieu le 24 et le mardi 25 novembre. C'est sur entrée libre aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Et le vernissage a lieu mardi 25 novembre à 18h. Alors je me tourne vers Audrey de Clincourt qui a posé pour cette exposition. Peut-être, Audrey, quelques mots sur cette expérience d'avoir posé. Combien est-ce que vous étiez? Comment s'est passé donc, le travail avec Carole Roux, la photographe?
Alors, je ne sais pas exactement le nombre de participantes à l'exposition. En tout cas, moi, ça m'a apporté une confiance en moi. Et je voulais surtout, et c'était le projet d'ailleurs de Carole, faire voir aux gens que malgré qu'on a subi des violences, que ça soit dans un court ou longue période, et ben que finalement c'était possible de s'en sortir.
et que bah, après toutes ces violences-là, on ne récupère pas forcément une vie normale, puisqu'il y aura toujours des séquelles, hein, il faut apprendre à vivre avec, mais que, bah, que la vie, elle était belle, et qu'elle vaut le coup d'être vécue, et que ça vaut le coup de se battre pour y arriver.
Okay. Alors, c'est un autre média, la photo. Tout à l'heure, on a parlé de votre prise de parole à la radio. Là, on témoigne par l'image. Quel différent ressenti? Qu'est-ce que ça vous a permis ou a apporté, ces différents?
Eh bien, en ayant vécu des violences en tout genre, eh ben, finalement, moi, en tant que femme, ben, je me trouvais moche. Je me trouvais grosse. Je me trouvais sale. Et finalement, ben, l'expo elle m'a permis, en posant, ben, ça m'a libérée un peu. Et ça m'a prouvé que ben, finalement, ben, l'image que j'avais de moi, de ce que cet homme m'avait fait, en fait, ce n'était pas la vraie image. Et l'expo, justement, elle est là pour faire réagir les gens en disant ben, on vous a mis des choses dans la tête, ou vous avez subi des choses, mais il faut se réveiller maintenant. Et ce qu'on vous a toujours dit, eh ben, ce n'est pas les vraies choses. Il faut qu'on ait l'image propre de nous. Et voilà.
Peut-être un mot de la collaboration avec Carole Roux, donc la photographe. Comment ça
Alors,
s'est passé?
Carole, je l'ai rencontrée via une amie. C'est une dame qui a été victime, elle aussi, qui a survécu aussi à des choses horribles. Et finalement, bah, elle a décidé de se battre aussi et d'en faire sa force. Et elle a très très bien réussi et elle fait un travail merveilleux. Et elle aide beaucoup les victimes. Et justement, cette expo-là, bah, j'espère que ça fera réagir certaines personnes qui sont encore... dans cette situation de violence, et certaines personnes aussi à faire changer les idées qu'ils ont sur les femmes qui sont victimes. On parle souvent des victimes comme des femmes qui aiment bien se faire battre. Les hommes disent souvent, bah, si elle reste, c'est qu'elle aime se faire taper. Mais derrière, il y a tout un schéma sur la violence. Il y a l'emprise, il y a la manipulation, il y a la violence psychologique qui joue beaucoup. L'écartement, l'éloignement, l'isolation, tout ça, ça joue derrière. Et aucune femme, je dis bien aucune femme, n'aime recevoir une claque, un coup de poing, un coup de pied ou se faire violer. Il n'y a aucune femme qui aime ça. Et tout ça, il faut que les hommes et les gens qui sont autour des victimes, il faut bien qu'ils le comprennent. Il n'y a aucune femme qui reste par plaisir.
Oui, c'est important de parler des personnes qui sont autour également.
Oui.
Évidemment qu'on parle des victimes et qu'on leur laisse le premier plan, notamment dans cette expo photo. Mais peut-être un mot également de ce qu'on peut faire quand on est soit victime de violence, soit témoin, soit proche d'une personne.
Oui, c'est extrêmement important. Tout le monde peut réagir, tout le monde doit réagir face à ces violences. Et finalement, quand on interroge, on a tout un exemple autour de nous. Toutes et tous. Donc, il y a des ressources. Le numéro 3919, numéro gratuit, ouvert 24 heures sur 24, que vous pouvez appeler en tant que victime, mais aussi si vous êtes un proche ou un témoin, pour savoir quoi faire et comment accompagner. Parce qu'en effet, c'est beaucoup plus complexe qu'il ne paraît la question des violences et la question des violences dans le couple. Parce que dans le couple, il y a de l'amour, il y a la question de l'emprise et puis des lunes de miel. Donc, il y a tout un cycle de la violence qui fait que, bah, naturellement, l'auteur n'est jamais tout le temps violent, sinon la victime partirait plus facilement. Donc c'est beaucoup plus subtil. Donc voilà, donc c'est extrêmement complexe. Et donc ça veut dire que si on est proche, il ne faut surtout pas minimiser, il ne faut surtout pas culpabiliser, et donc il faut écouter, avoir une approche d'écoute et d'accompagnement, et accepter que la personne, ne pas presser la personne pour qu'elle parte, parce qu'elle n'est pas forcément prête. On sait qu'une femme fait en moyenne 7 allers-retours avant de partir définitivement. Donc on a dit 3919, le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Et donc sur ce site, il y a un chat aussi en ligne pour s'il y a une violence conjugale, sexuelle ou sexiste, et on peut dialoguer avec un policier ou un gendarme. À noter aussi, donc voilà, la plateforme, ce numéro de téléphone, et puis naturellement le numéro d'urgence auprès des forces de l'ordre, le 17 ou 114 ou 112 en cas de situation d'urgence.
Et alors, on a cité les actions du CIDFF, mais il y en a d'autres, évidemment. Jacqueline Engrave, vous vouliez signaler également.
Oui, je voulais simplement citer l'exposition intitulée « Violence, elles disent non ». que nous allons installer demain matin dans le hall de la médiathèque intercommunale de Digne-les-Bains. C'est une action initiée par le groupe de travail de la mairie qui s'appelle la Place des femmes dans la ville, en collaboration avec Femmes Solidaires, puisque cette exposition est une exposition créée par Femmes Solidaires et son magazine Clara Magazine en 2018. Elle est composée donc de 17 panneaux et qui montre 8 types de violences masculines à l'égard des filles et des femmes. Ces 8 types dont on a parlé initialement. Premièrement, la prostitution. Nous considérons que la prostitution est une violence faite aux femmes. Le harcèlement sexuel, l'excision et les mutilations génitales. Il ne faut pas penser que ça ne concerne que l'Afrique, mais ça concerne aussi des petites Françaises, dont à peu près 3000 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le mariage forcé, c'est la même chose également. Ça concerne aussi les petites filles, les petites Françaises d'origine africaine. Les violences conjugales, on en a parlé longuement, dont les féminicides, mais aussi les suicides forcés. Hein, et les viols et agressions sexuelles, le sexisme ordinaire et le cyberharcèlement. Et pour chacune de ces violences, il y a deux panneaux. Le premier qui montre le pictogramme, c'est-à-dire un dessin symbolisant le type de violence, et puis le témoignage d'une victime. Et le deuxième qui indique la définition de la dite forme de violence, ce que dit la loi en ce qui la concerne et des statistiques éloquentes quant au nombre de victimes dont on a parlé aussi à l'instant. Le 26, le 27 et le 28 à la médiathèque de Digne-les-Bains.
Alors ça, c'est un événement proposé par Femmes Solidaires. On a cité les événements proposés par le CIDFF, l'expo photo à Château-Arnoux. Est-ce que ce sont des événements pour lesquels vous travaillez en partenariat? Est-ce qu'il y a des structures qui collaborent entre elles? Oui,
oui, enfin, c'est le principe de ces événements comme le 25 novembre, c'est que l'ensemble des partenaires, donc que ce soit associatif, les collectivités, l'État, travaillent ensemble pour... visibiliser, sensibiliser, éduquer sur ce sujet. L'événement de Château-Arnoux, l'exposition, c'est organisé en co-organisé avec aussi la mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban, les associations comme France Victimes, la maison de protection des familles. Jacqueline n'a pas encore parlé, mais il y a des inaugurations de bancs rouges partout en région PACA. Oui. Les bancs rouges, c'est quoi, Jacqueline?
Il y en a un le 29 novembre à Estoublon, où on aura le plaisir d'avoir la visite de Lucille.
Et le principe, c'est quoi? C'est de symboliser dans l'espace public un banc qui est rouge et qui symbolise ces violences faites aux femmes et notamment la question des féminicides. Donc c'est extrêmement important. Un élément qu'on n'a pas abordé, qui est assez récent, c'est depuis l'année dernière, on comptabilise les suicides forcés. Et on en parlait hors antenne avec Jacqueline en disant qu'en 2024, on a compté 107 féminicides. Et il faut compter 906 femmes qui se sont suicidées ou tentées de se suicider à cause du harcèlement par son ex-conjoint. Et ça, c'est des chiffres qu'on ne comptabilisait pas avant. Et il est extrêmement important parce que même après la séparation, les violences se poursuivent. Et ça peut arriver, et ça peut être pas forcément physique, mais une pression, un harcèlement, une pression psychologique font que ça peut arriver jusqu'au suicide forcé. Donc, on l'a vu avec le témoignage, c'est des violences systémiques et d'une complexité qui nécessite, comme on l'a dit, la formation des professionnels. Donc, depuis 2019, il y a eu le Grenelle contre les violences au sein du couple. Il y a une série de mesures qui ont été mises en place, comme la création des maisons de protection des familles, le fait que l'obligation du signalement au parquet en cas de suspicion de violence, même sans plainte, les bracelets anti-rapprochement. Il y a une série de mesures, et notamment la question de la formation. Et comme vous disiez dans votre témoignage, la nécessité de former les forces de l'ordre, former tout le système judiciaire. Alors, il y a déjà des choses qui ont été faites, et il y a quand même plusieurs marches qui ont été montées depuis 2019, mais il reste encore beaucoup de travail et beaucoup à avancer sur ces sujets qui sont tellement complexes et avec beaucoup de choses insidieuses que ça nécessite de la formation en continu, et tous les professionnels qui sont spécialistes sur le sujet le disent. Donc, élément extrêmement important. Et puis, j'ai envie de revenir aussi sur ce que disait Jacqueline sur la question, bah, comment on change la société pour une société plus égalitaire, la question de l'éducation. Dans l'école, en dehors des écoles, alors on a beaucoup entendu parler des programmes EVAR et VARS, donc éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sont nécessaires. On a parlé aussi, Jacqueline, tu faisais référence à toutes ces questions de stéréotypes. Notre cerveau va très vite, on a besoin de classifier les éléments. Et donc, on a tous des stéréotypes, c'est normal. Et sur ces sujets, eh ben, on en a plein, sauf que nos stéréotypes amènent des préjugés et amènent de la discrimination. Et donc, il faut qu'on travaille collectivement à dépasser,
déconstruire
ces sujets. Donc, l'éducation, c'est comme ça qu'on avancera.
Oui. Ce qu'on voudrait, c'est que les programmes EVARS, notamment, soient appliqués partout et dans tous les établissements. Et c'est ça le défi, quand même, aujourd'hui.
On se rapproche de la fin de cette émission. Est-ce que, pour terminer, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, un élément important que vous souhaiteriez souligner, éventuellement peut-être un mot sur la violence numérique, puisque je le signale quand même, même si on ne va pas forcément s'attarder dessus. En 2025, la campagne pour la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes se concentre sur le domaine, sur le monde numérique. Peut-être Audrey, un mot là-dessus sur ce que ça évoque pour vous, la violence en ligne.
J'en ai été victime également. Alors, c'est très compliqué parce qu'au final, bah, cette violence, elle est au vu de tout le monde. Alors, sur les réseaux, tout le monde a accès aux réseaux, c'est public. Et finalement, on a libre parole, apparemment, donc pour insulter, humilier, dévaloriser. Et les gens trouvent ça, certains trouvent ça marrant, amusant. Et finalement, ça détruit une personne derrière. Ça détruit une personne et sa famille aussi. Parce que quand une personne est touchée, bah, c'est la famille aussi qui rentre en compte. Et je trouve malheureusement qu'il n'y a pas assez de contrôle sur les réseaux. Et les sanctions derrière, bah, il n'y en a quasi pas. Parce que ça se cache derrière des pseudos, ça se cache derrière des faux profils. Et pour les retrouver, ben, pas besoin de faire trop d'enquêtes, puisque c'est une perte de temps. Donc souvent, ça passe à côté. Mais la personne qui a reçu les attaques, eh ben, ça reste pour elle. Et ça serait bien de changer les choses, de pouvoir, mettons, faire un compte, celui qui veut parler, qui parle, mais qui puisse pas se cacher derrière un pseudo, que les comptes soient vérifiés, qu'il y a un vrai profil derrière. Et à ce moment-là, qu'on entame plutôt un débat que plutôt des insultes ou des humiliations. Il faudrait que la justice fasse aussi un peu son travail, je suis désolée, mais il y a des sanctions qui devraient être prises, qui ne sont pas prises en compte. Et malheureusement, ben, ça laisse libre accès et libre à toute personne d'être visée et de viser les gens.
Lucille Thibault, vous vouliez réagir?
Oui, la violence numérique est vraiment un sujet. Elle envahit l'espace public. C'est extrêmement difficile pour une femme politique, une femme journaliste. Elles sont plus ciblées par ces violences. Dans le couple, c'est un sujet qui augmente. Il y a des outils sur le site Arrêtons les violences. Il y a des guides, il y a des outils pour mieux comprendre, pour mieux accompagner ces femmes. Et puis moi, comme dernier message, j'ai envie de dire que donc, la honte n'est jamais du côté des victimes, mais bien du côté des agresseurs. Et ça, il ne faut jamais l'oublier.
Jacqueline Angrave, un mot de conclusion?
Oui, eh bien, ça sera à peu près le même. Il faut aussi s'occuper des auteurs de violences. Quand ils sont petits, donc changer l'éducation des garçons. Et puis, s'occuper des auteurs pour les rééduquer, en quelque sorte, si on a les moyens de le faire, bien entendu.
Merci beaucoup à toutes les trois. Merci également aux auditeurs, aux auditrices qui ont suivi ce magazine. Toute l'équipe de Fréquence Mistral vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur nos antennes. Et on va se quitter en musique avec Clara Luciani, Cœur.
Et comme un voile qui s'accroche à tous les clous, tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups, tu te fais du mal.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.